Bonjour, bonjour à tous, on me dit qu'on est à l'antenne. Midi 10, normalement c'est notre heure, c'est la bonne heure, c'est l'heure de CCC, comme c'est ça la classe. Merci d'être fidèle à cette émission de radio, aujourd'hui un peu particulière bien sûr, vu les événements qui se sont produits il y a quelques jours en France. Nous sommes une émission sur l'actualité, donc évidemment tout en respectant, puisque nous sommes en période électorale, et je le rappelle à tous ceux qui sont autour de la table, que je vais présenter dans 2 minutes, l'impartialité qui doit être la nôtre, hein, ce sont les règles et les codes de la radio. Eh bien nous allons parler évidemment, vous vous en doutez, longuement des attentats à Paris. Et puis dans un deuxième temps, histoire de se changer peut-être un peu les idées, peut-être qu'on a envie de se changer les idées en ce moment, vu la folie de la Terre. Eh bien, on se demandera si on a envie d'aller sur Mars. C'est peut-être plus paisible sur Mars, puisqu'une Américaine, une jeune Américaine, a déjà pris son billet et a donné de l'argent à une société privée pour que dans 10 ans, elle puisse aller sur Mars. Et un voyage qui plus est sans retour. Est-ce de la folie? Est-ce de l'imagination? Est-ce que ça vous donne envie? Est-ce que vous avez envie d'aller sur Mars? Ça sera notre deuxième sujet en toute fin d'émission, mais on va évidemment commencer donc par les attentats à Paris, la barbarie en France. Et je voudrais donc écouter vos émotions, vos sentiments, vos impressions. Je vous dis bonjour d'abord à tous. Bonjour Lucien.
Ouais, salut. Salut à tous.
Bonjour Noé. Donc le
Bonjour.
petit nouveau, mais qui maintenant n'est plus un petit nouveau, puisque c'est la deuxième fois qu'il est sur ce plateau, dans ce studio. Le jeune Maxime.
Bonjour.
Bonjour Maxime. Et Quentin.
Bonjour à tous.
Bonjour à toi. Je pense que quelques-uns vont nous rejoindre. Pas Louise et pas Tiedel, puisque... Eh bien, ces deux autres fidèles sont toujours en Espagne, mais dès la prochaine émission, au mois de janvier, le premier mercredi de janvier, elle est comme ça, le planning est déjà noté, le 6 janvier, ils seront de retour et puis nous serons en plus grand nombre. Alors, juste puisque je parle de Louise, elle a tout de même envoyé un mail il y a quelques jours pour parler des événements. Et si j'essaye de résumer assez fidèlement ce qu'elle pense, on pourra peut-être partir de ça et je vous écouterai pour que vous puissiez rebondir sur cette opinion. Elle exprime, puisque c'est un peu la question que je vous pose aujourd'hui, en tout cas la première, est-ce qu'on est condamné à avoir peur? C'est un mot qu'on entend beaucoup depuis plus de 15 jours. La peur, on n'a pas peur, même pas peur. Est-ce que ça vous paraît sincère, crédible de ne pas avoir peur vu ce qui s'est passé? Est-ce que c'est l'attitude qu'il faut adopter? Est-ce qu'on peut se forcer à ne pas avoir peur? Et Louise explique donc dans son mail qu'elle m'envoyait depuis l'Espagne que, eh bien, effectivement, elle voudrait bien ne pas avoir peur, mais qu'en même temps, ce qui s'est passé est parfois plus fort que soi et qu'elle est très partagée en fait entre la volonté de continuer à vivre normalement. Alors depuis l'Espagne, elle explique aussi que, et puis la peur justement, qu'elle a vu beaucoup de soutien de la part des Espagnols à l'égard des Français, et que même de là-bas, ça a eu évidemment, et un peu partout dans le monde, et logiquement un retentissement. Qui est-ce qui veut s'exprimer en premier donc sur ces attentats, et on dit bonjour à Lou, puisqu'il vient d'arriver dans le studio, et ainsi qu'à Louis. Lou et Louis.
Bonjour.
Quentin, nous t'écoutons.
Moi je pense que oui, alors on peut avoir peur, mais après il faut essayer de faire un peu abstraction, parce que sinon on s'arrête de vivre, on reste enfermé chez nous, et justement c'est pas ça qu'il faut faire, quoi.
Mm-hmm. Comment tu as appris ça le matin, la veille au soir? Ça s'est passé un peu, enfin en début de soirée, par la télévision, par des amis?
Alors moi, en étant interne la semaine, en fait, je rentre le vendredi soir chez moi et je suis souvent très fatigué, donc j'essaye le vendredi soir de me coucher relativement tôt.
Donc tu l'as appris le lendemain du coup.
Donc voilà, c'est ça. Donc
le 14.
Le soir, je me suis couché vers 10h, je devais dormir vers 10h30. Du coup, j'ai pas regardé ni la télévision ni écouté la radio. Du coup, je l'ai appris le lendemain matin, ouais, en allumant mon téléphone et en allant sur un réseau social qui est très connu, Facebook. Et oui, en fait, je l'ai appris comme ça. Et, tout le monde en parlait, des publicités, des amis, et tout type de gens. Et tout le monde en parlait, ouais, c'était. Vraiment le sujet qui ressortait, et je trouve ça normal, mais après, enfin, tout le monde en parle et...
Trop?
Ouais, peut-être
selon
trop.
Selon toi?
Ouais, selon moi, peut-être trop, ouais.
C'est quand même inédit et très grave ce qui s'est passé. Alors pourquoi trop?
Parce que c'est peut-être ce qu'ils ont envie, les terroristes, qu'on en parle, et que du coup, il pourrait peut-être y avoir... je sais pas, enfin, c'est compliqué, je sais pas, ouais.
Mmh.
C'est très partagé et je pense que chacun a son avis, mais je reste sur le mien qui est qu'il faut pas trop en parler et voilà.
D'accord, vous avez tous appris ça donc le 14 aussi, vous étiez tous aussi fatigués que lui le soir, vous avez appris
oui.
Ça ce sinistre vendredi 13 le jour même.
Moi j'ai été réveillé le soir au moment où ça s'est passé
En fait, j'étais devant le match de foot, puis je suis allé me coucher après.
Le fameux match de foot, oui, d'où tout est parti.
Ensuite, on m'a appelé, un ami m'a appelé pour me dire d'aller regarder les infos. Donc moi, je suis resté toute la nuit devant la télé.
Comme beaucoup, je crois. Qui n'arrivaient pas à se descotcher des écrans.
Oui, c'est ça, mais après...
Et c'est quoi le premier sentiment, évidemment la stupéfaction, j'imagine, enfin plus la peur, la stupéfaction, l'horreur, la surprise, le...
Bah, ni l'horreur ni la surprise, parce que honnêtement je m'y attendais en fait. Ça fait plusieurs mois qu'on le dit, que le pire est devant nous, et bah voilà, ça s'est produit, donc enfin moi je m'y attendais, je savais pas quand ça allait arriver, forcément j'étais un peu surpris, parce que on s'attend pas forcément à d'un coup se faire réveiller au milieu de la nuit et on nous dit c'est la guerre à Paris,
un truc aussi violent aussi, ouais.
Mais je savais que c'était quelque chose qui allait arriver, tous les experts le disaient.
C'est un mot qui fait peur, ça, la guerre, et c'est un mot qui a été prononcé très tôt par nos dirigeants, hein. Donc oui, la guerre à Paris, effectivement, c'est un assez bon résumé, hélas. Lucien, tu peux juste peut-être, avant qu'on t'écoute, me faire passer le numéro de téléphone du Standard si les auditrices et auditeurs veulent bien nous appeler. Louis, tu veux donner le numéro ? Allez, non, je croyais, pardon, que tu faisais signe. Alors, on va le dire à monsieur Quentin, parce qu'il adore ça, de vous donner le numéro. Donc, écoutez bien Quentin, appelez-nous, n'hésitez pas, nous sommes en direct sur Radio Diwa pour parler, évidemment, puisque c'est l'événement, ça va de soi, depuis la dernière fois où on s'est entendu et on s'est vu ensemble, et vous nous avez écouté, il y a eu ce terrible événement à Paris. Alors Quentin, quel numéro faut-il appeler pour discuter avec vous ?
Alors c'est le 09 52 36 85 31. Donc c'est un numéro qui n'est pas surtaxé, je crois.
Répète-le peut-être une fois.
Alors je le répète, 09 52 36 85 31. On attend vos appels. Hein.
Je confirme, il n'est pas surtaxé.
C'est un numéro payant, mais non surtaxé. Voilà, ce que n'a pas été très clair la dernière fois. Donc payant, mais non surtaxé. Numéro normal, inclus dans votre forfait, c'est ça, Lucien ?
C'est comme si tu appelais ta grand-mère, quoi.
C'est comme si on appelait ta grand-mère. Donc appelez-nous. Et juste après votre grand-mère, parce que faut pas oublier sa grand-mère non plus. Lucien, tu voulais dire quelque chose ?
Ouais, je parlais de niveau. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez au niveau de la guerre à Paris, le fait que c'est une guerre. Après, je sais pas si on peut parler vraiment de guerre, parce que c'est pour moi, guerre, ça a vraiment une signification d'une implication de tout le pays pour juste contre un pays ou un état. Je dirais plus vas-y Louis.
La guerre, par définition, c'est un conflit armé. Donc on peut parler de guerre.
Ok.
Non, est-ce que je voulais dire, alors il y a des débats là-dessus. Il faut qu'il y ait deux armées l'une en face de l'autre. Alors c'est pas exactement les guerres comme on les entendait, les deux premières guerres mondiales. Mais
c'est pas une guerre totale.
Mais c'est en tout cas une guerre et une lutte contre la barbarie et le terrorisme, ça c'est sûr. Oui.
Ouais, c'est pour ça que je n'utiliserai pas le mot guerre, parce que je trouve ça trop violent par rapport à ce qui s'est passé.
Autant ce qui s'est passé, c'est un peu violent quand même.
Oui, c'est même. Moi je suis pas du tout d'accord par exemple parce qu'on a. Par comment on a répondu à toutes ces attaques. Et c'est pour ça que j'aime pas le mot guerre, je préfère dire lutte. Ou déjà lutte, je trouve ça beaucoup moins violent, même si ça implique la même chose dans tous les cas. Et moi, ce que je dirais dans lutte plutôt, c'est la lutte pas vraiment à la racine, mais un peu quand même, c'est-à-dire essayer de faire en sorte qu'on puisse pas produire des gens qui pensent comme ça et qui ont envie de... Moi qui ai aucune conscience de ce qu'ils peuvent faire niveau en détruisant des gens et qu'on n'a pas forcément conscience, qui n'est même pas la conscience de savoir que c'est pour eux, c'est presque normal de tuer des gens.
Alors, c'est ça que je veux dire. C'est compliqué de faire une hiérarchie, un palmarès dans la barbarie, mais est-ce que vous avez été, on a beaucoup entendu ça, plus touché, différemment touché entre Charlie Hebdo, janvier, et ce fameux vendredi 13 ? Oui, Maxime ?
Ben, moi j'ai trouvé ça entre guillemets encore pire que Charlie Hebdo, parce que moi je l'ai su aussi, donc comme Quentin, le lendemain. Et donc je l'ai su par mes parents, parce que la télé était allumée, donc ça passait évidemment beaucoup de choses d'actualité. Et ben, oui, j'ai trouvé ça pire parce que déjà c'était beaucoup plus violent, il y a eu beaucoup plus de morts, et ça les personnes qui étaient visées, c'était des personnes entre guillemets normal et qui innocente. Était plus voilà innocent, qui était comme nous, c'est-à-dire des gens qui vivaient tout simplement, qui étaient juste allés voir un spectacle un soir entre amis, avec sa famille ou des choses comme ça. Et alors que Charlie Hebdo, bon, c'était différent, c'était aussi quand même...
Il n'était pas coupable pour autant.
Oui, mais non, mais, voilà.
Mais il avait pratiqué un métier.
Il y avait de la provocation, Charlie Hebdo.
Ouais. Ouais, en fait, on se sent peut-être encore plus concerné parce que c'était des gens, entre guillemets, normaux, qui faisaient des choses que nous, on fait tous les jours.
Ça, c'est très intéressant ce que tu dis, Lucien, par rapport à la provocation. Mais est-ce que... Alors, pour le coup, on pouvait peut-être le dire à l'époque. Je dis bien peut-être.
C'est pas vraiment...
Non, non, mais Lucien, juste deux secondes.
Allez-y.
Avec ce qui s'est passé le vendredi 13... C'est bien la preuve que c'était pas cette provocation-là qui avait provoqué cette barbarie-là, puisqu'on a eu bien pire le vendredi 13, et absolument pas. C'était des gens comme toi et moi, plutôt toi parce que
on est d'accord. Très jeune. C'est pour ça justement que c'est encore plus inexplicable.
Donc c'était un prétexte.
Parce qu'il y avait pas de provocation. Il y avait. Là encore, ça aurait été un prétexte, même si ça peut pas pardonner ce qu'ils ont fait. On peut pas tuer juste parce qu'on a été provoqué, même. Je veux dire, largement se relever d'une provocation.
La revendication de Daesh, hein, on s'en est pris à Paris parce que c'est le symbole de la perversité et de la décadence, je crois que c'est le terme. Ouais. Enfin, en tout cas, l'idée, ces gens-là allaient danser. Et c'était le simple fait qu'ils s'amusaient, qu'ils vivaient et qu'ils dansaient et que ça ne correspondait pas à la façon de vivre de ces gens-là.
Avec ce que pensait,
qu'il fallait les éliminer. Enfin, c'est, voilà, quoi, c'est la vie qui n'a pas du tout le même sens. Oui.
Pour moi, les deux attentats qu'il y a eu donc en fin et début d'année sont totalement différents, car on en a un qui a été porté pas vraiment sur des hommes, même s'ils en sont morts. C'était plus une attaque à la liberté d'expression, donc il y a un droit que tout le monde a, et je pense que les terroristes, suite à cette attaque et vu les réactions françaises et du reste du monde, ont compris que s'attaquer à cette liberté, à un droit tel que celui-ci, ne permettait pas donc de faire peur, mais unissait tout le monde contre le terrorisme.
Justement.
Et cette fois-ci, c'est l'attaque qui a été faite à Paris donc ce vendredi 13 est complètement différente, car cette fois-ci ils ont réussi. C'est leur but était de faire peur. Ils se sont attaqués à des gens comme vous, comme moi. Et c'est là qu'on se rend compte de leur intelligence, c'est que on n'avait pas peur quand ils ont attaqué Charlie Hebdo, on était juste révoltés parce que on savait qu'on n'a jamais écrit de journal comme les journalistes de Charlie Hebdo, mais cette fois-ci on est tous déjà allés à un concert, on s'est tous déjà amusés, on est tous déjà allés boire un café dans un bar. Enfin, c'est ça qui fait peur, c'est qu'on sait qu'ils s'attaquent à n'importe qui.
Et c'est terrible d'avoir peut-être attendu que ce soit n'importe qui, comme tu dis, qui était attaqué, pour peut-être on ait pris vraiment conscience que ce qui s'était passé avec Charlie Hebdo, certains l'avaient déjà fait, mais était d'une certaine manière aussi grave. De toute façon, des hommes qui faisaient leur métier, ils s'exprimaient, ont été tués. Mais c'est vrai que certains se sentaient plus éloignés de ça, et peut-être, après on peut avoir cet avis-là, mais qu'on pouvait estimer que, oui, ils allaient peut-être un peu trop loin. Mais c'est bien la preuve que ceux qui disaient ça se sont un peu trompés, peut-être pas sur le fait qu'ils allaient trop loin, mais que c'était pas pour cette raison-là unique. La preuve, les gens qui étaient en terrasse n'avaient strictement rien à voir, comme tu viens de le dire, avec les journalistes de Charlie Hebdo.
Tu disais, Lucien, peut-être Noé. Tu disais que c'était totalement différent, mais ils sont quand même attaqués à une liberté. Le droit de... C'est quand même une liberté de pouvoir s'amuser, aller à un concert, et même ceux qui font le concert, liberté de pouvoir exprimer ce qu'ils entendent par la musique. Donc c'est quand même, il y a quand même un rapport avec la liberté d'expression. La liberté aussi de pouvoir se promener sans avoir quelqu'un qui va te tuer, du moins, sans avoir peur, sans qu'il y ait quelqu'un qui aille te tuer, mais sans avoir peur en sortant de chez soi, de se faire tirer dessus et de pas pouvoir être en sécurité. Ça, c'est une liberté aussi qui est atteinte. Et justement, c'est ça c'est leur but. En atteignant cette liberté, ils permettent de faire en sorte de nous faire peur et de dire que ce en quoi on croit, eh ben ça peut pas marcher. Mm-hmm. Et que là, c'est très utopiste. Ils sont en train de nous dire qu'en gros, notre système est très utopiste et qu'on peut pas fonctionner comme on fonctionne. Voilà.
Ah, clairement, le message est celui-là, effectivement. Votre vie, votre façon de vivre ne correspond pas à la nôtre. Ce qui pourrait être leur droit, mais sauf qu'ils veulent imposer leur façon de vivre à tout le monde. Et ça, c'est évidemment pas possible, enfin, surtout si on peut placer une façon de vivre, puisque pour eux, la vie n'a pas de prix, hein, vu la façon dont ils se font sauter la cervelle, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, pour la plupart en tout cas, s'il y en a encore qui sont malheureusement dans la nature. Oui, Lou, et puis le jeune Noé.
Moi, je voulais revenir sur un point qui m'avait aussi pas mal frappé, entre les différences qu'il y a eu entre Charlie Hebdo et ce qui s'est passé donc, ce vendredi 13. Charlie Hebdo, c'est quelque chose qui s'est plus répercuté au niveau national, dans le sens où il y a tout le monde qui a dit la phrase que tout le monde a entendue, je suis Charlie, qu'il l'a même vu, qu'il l'a lu, ou qu'il l'a dite, ou même qu'il l'a pensé très fort. Et c'est vraiment quelque chose qu'on a vu partout en France. Mais là, avec ce vendredi 13, très rapidement, on a pu voir plein d'hommages, plein de soutien d'autres pays à la France. Par exemple, avec un qui était assez... Il y en avait plusieurs. Par exemple, Pray for Paris qui a été énormément tweeté ou écrit,
notamment
etc.
sur toutes les photos Facebook que tout le monde a changé, qui ont changé hashtag.
Et le fameux drapeau bleu, blanc, rouge aussi. Après.
Et aussi ouais. Non seulement ça, mais aussi sur des grands monuments. Par exemple, je crois que c'est la petite tour Eiffel qui est à Tokyo, je crois.
Statue de la Liberté aussi.
Non, la petite tour Eiffel de Tokyo, pendant le week-end après le vendredi 13, était totalement éteinte et ils l'ont rallumée qu'une semaine après. Il y a aussi plein de monuments qui ont été colorés en bleu, blanc et rouge.
Statue de la Liberté.
Tout le Statue de la Liberté ou même
l'Empire State Building.
Voilà, l'Empire State Building a été décoloré en bleu, blanc et rouge. Et là, ça fait vraiment une répercussion et ça, en plus, je pense, fait prendre conscience à d'autres personnes qui ne sont même pas de notre pays et qui ne sont même pas, entre guillemets, touchées directement, que ça, ce qui s'est passé, ça pourrait très bien se passer n'importe où ailleurs. Et c'est aussi quelque chose qu'on a vu il y a plus longtemps. En 2001, le 11 septembre 2001, ils en sont pris à des personnes qui faisaient juste leur travail en détournant un avion et en l'écrasant contre deux tours, les tours jumelles, mais juste des personnes qui faisaient un travail. Et là, ça, ils ont retenu un grand coup et ça l'a montré au monde entier qu'ils étaient capables
de... Qu'est-ce que ça vous a fait que le monde entier, en tout cas les pays démocratiques et qui partagent les mêmes valeurs que nous, soient solidaires et réagissent comme ça. C'était énorme quand même.
C'était énorme. C'était une réaction.
C'est touchant. Hein.
C'était très touchant, mais en même temps, j'ai trouvé ça.
Hypocrite.
Peut-être hypocrite et un peu trop.
C'est dur ça.
Bah,
par certains, peut-être.
Trop visé vers la France et est-ce qu'elle vécue elle seulement.
Alors que je pense que c'est quelque chose que tout le monde peut ressentir, alors que ça a été Pray for Paris. Alors que je pense là, c'est plutôt genre. Prier pour la démocratie ou prier pour les libertés.
Oui, pour nous aussi, pour eux aussi.
C'est ça, exactement.
C'est des valeurs communes.
Et c'est pour ça que je trouve ça un peu dommage que ça soit limité, entre guillemets, à prier juste pour Paris, parce que c'était passé à Paris. Ça a été.
C'est le symbole de la capitale.
C'est ça, mais ça a été, entre parenthèses, ils ont pris comme image Paris, alors que c'était juste une atteinte aux libertés, de manière générale. Et c'est ça que j'ai trouvé. Enfin, pas dommage, c'est un peu, on dirait que je parle d'un film, j'ai trouvé dommage le scénario. Non, c'était juste que j'ai trouvé ça trop ciblé, je sais pas.
Et. Noé, on t'écoute. Et on écoute juste après Louis et Lucien.
Ah, merci beaucoup. Je voulais juste dire que concernant les événements, j'ai un avis partagé. D'abord parce que les violences commises en direct, parce que je les ai vécues, j'ai regardé le match durant les détonations, les explosions. C'est inacceptable qu'on puisse attaquer à des valeurs, à des personnes innocentes. Sous prétexte qu'on n'a pas les mêmes idées qu'eux ou le même mode de vie. Donc ces violences sont déjà inacceptables. Et puis ensuite, concernant les frappes en retour que la République a inoculé, je ne sais pas si on dit comme ça, sur...
A lancé.
Oui, voilà, a lancé plus simplement sur la Syrie pour... C'est se défendre, bien sûr, parce que c'est des violences et on peut pas rester sans rien faire, mais le fait qu'on réagisse comme ça, ça crée un cycle de violence. Il y aura des morts des deux côtés et chacun voudra se venger, chacun à son tour et ça finira jamais.
Donc tu penses que c'est pas la bonne façon de faire. Alors, on est là pour parler des attentats et on a légitimité à le faire, sans aucun souci, mais comme il y en a deux qui sont arrivés en cours de route, bien préciser que nous sommes en période électorale et qu'on est tenu un droit de réserve par rapport à l'animateur que je suis et aussi par rapport à la radio et qu'il faut faire attention donc à ne pas nominativement parler de politique hein, puisque même si c'est des régionales, il y a aussi des retentissements nationaux. Donc merci de ne pas, ou alors il faudrait citer systématiquement tous les hommes politiques et ils sont nombreux, ne faire de remarques personnelles. On pourra le faire éventuellement après, au mois de janvier, mais voilà. Merci de respecter ça.
Donc on peut quand même parler de politique si on ne cite aucun...
En général.
Voilà, en général.
Ouais. Pas de manière nominative.
On n'est pas interdit à... Bon, alors moi, pour continuer les propos de Noé, je pense qu'on agit, mal. Actuellement, on a une mauvaise réponse face au terrorisme. On agit dans la demi-mesure. on lance des bombes, pas au hasard, mais par-ci, par-là, de temps en temps, dans leur pays. On agit vraiment dans la demi-mesure. Ce qu'on fait, ça va juste servir...
Je pense
servir.
Pas qu'on puisse dire que ce soit fait au hasard, quand même, Louis.
Non, mais pas au hasard, justement, peu... mais tout de même, un peu... On n'a pas un but précis.
Éliminer Daesh.
On n'agit pas vraiment pour éliminer Daesh. Si on voulait éliminer Daesh, on pourrait le faire. On pourrait se donner les moyens de le faire rapidement, brièvement, et de faire une guerre. Après, humainement parlant, ça n'a jamais été une solution. Mais il faut choisir. Il faut soit qu'on se dise être du côté de ceux qui pensent que c'est juste une réponse à notre politique étrangère. Et dans ce cas-là, en même temps, la bête a déjà mordu. Elle va mordre encore. Et de l'autre, on a les personnes... Qui veulent éliminer totalement et maintenant Daesh. Je dis pas qu'il y a la vérité d'un côté ou de l'autre, mais je pense qu'il faut choisir. Il faut qu'on arrête d'agir dans la demi-mesure. Ça sert juste à souder les terroristes et en faire plus que ce qu'il y a déjà. Donc je pense qu'on a une.
Et quelle est la solution alors?
Je l'ai
laisser
pas.
Faire. Parce que tu disais toi-même que tu craignais, et malheureusement on peut tous craindre ça, une récidive. Alors quand on ne sait pas, mais de toute façon, enfin.
Faudrait aller sur Mars.
Est-ce qu'on peut pas répondre à ce que tu dis? Je comprends ton raisonnement qui est cohérent dans une certaine mesure, mais au final, ne rien faire, c'est aussi leur donner raison. Tu as l'air de dire ils vont souder encore plus qu'ils sont attaqués, ce qui est peut-être vrai, mais ne rien faire, c'est laisser continuer aussi. C'est considérer que il s'est rien passé, il s'est pas rien passé. Non.
Moi, je voulais rebondir justement là-dessus,
oui.
Sur le fait que je trouve ça vraiment pas du tout, même très immature de la part de la France de réagir comme ça. Du fait d'aller directement.
Tu es libre de tes propos, mais.
Lancer.
Juste interrompre deux secondes, on est quand même, mais. Toi pas, enfin pas toi, en tout cas très solidaire depuis quelques temps, il y a quelques bémols ici ou là, mais tu penses que la solidarité nationale c'est déjà fini et qu'il faut pas, par principe,
non,
être derrière.
Non, je parlais pas de ça, je parlais du fait d'aller lancer des bombes un petit peu
c'est ce
au hasard,
que
en sachant très bien
respecter
quand tu
les décisions du
non, mais
pouvoir.
Sachant très bien quand tu des civils de l'autre côté, parce que on sait très bien que Daesh place des civils aux endroits où ils mettent des dépôts d'armement, ou en sachant très bien qu'on fait des morts civiles et innocentes, alors que nous, on ne veut pas faire des morts civiles innocentes, d'après notre constitution, d'après, on n'a pas le droit de tuer. Pourquoi est-ce que nous, on pourrait tuer au nom de la guerre contre Daesh, sans éliminer beaucoup de personnes?
Dans une guerre, on a hélas le droit de tuer. Bien sûr que si.
Il n'y a pas de bonne raison pour tuer.
Non, il n'y a aucune bonne raison.
Si on n'a pas le droit, si. Par principe, quand on est en guerre, on a le droit de tuer l'ennemi.
Mais là, on ne tue pas l'ennemi, justement.
Bah c'est le but.
On tue l'ennemi, mais des gens, des civils qui n'ont aussi rien demandé.
Oui, justement.
Pour l'instant, on a des frappes aériennes quand même. Pour l'instant, il n'y a pas de décision prise au sol. Donc, je ne suis pas certain qu'il y ait énormément de population civile et heureusement qui a été touchée. Il y a quand même des ordinateurs très précis et des c'est pas des ordinateurs, mais
on a prouvé, quand même que
des frappes précises.
Si,
il y a forcément des dégâts collatéraux. Oui, voilà. C'est comme ça que ça s'appelle, hélas, dans les guerres, bien sûr.
Quand on lance une bombe sur un village, je pense que dans le village, il n'y a pas que des terroristes.
Donc vous pensez qu'il ne faut rien faire?
Non, pas rien faire, mais...
Et que du coup, ça s'arrêtera tout seul?
Ah non, c'est sûr que ça ne s'arrêtera pas tout seul, puisque
c'est bien
plus,
ça, problème.
J'ai appris ce week-end en regardant un reportage que le fugitif, le terroriste qui a été recherché, je ne sais plus son nom... Chalabed, je sais pas quoi. Là.
Oui, il me vient plus non plus en
voilà.
tête. Mais...
Et ben, il avait acheté 50 détonateurs dans un magasin d'armement. Donc non, je ne pense pas que ça soit
celui qu'on croyait en Belgique et qui apparemment serait en Syrie. On a appris ça il y a deux
voilà,
jours.
Voilà, c'est ça.
À Belslam.
Oui, je ne sais plus.
Qui avait fait l'objet d'un portrait robot.
Voilà,
on le recherche,
ça.
On le recherche toujours.
Moi, le point que je voulais un peu, enfin sur lequel je voulais revenir. Là, il y en a. Vous en avez tous un peu parlé, mais c'est ce fait de. Je sais pas comment dire, mais que nous on s'est fait attaquer directement, mais en réponse ils ont juste lancé des drones qui étaient programmés pour soit avec des coordonnées précises pour faire une frappe aérienne du coup sur des dépôts d'armement, sur des, je sais même pas, sur des camps, j'ai pas beaucoup suivi.
Parce qu'on a déjà touché quand même, hein. Il y
non
a
bien
une
sûr
partie de voilà.
Non, je dis pas que ça a été inutile ou quoi, mais je dis juste que dans tous les cas il va y avoir des dommages collatéraux qui, je pense, ne sont pas spécialement nécessaires et peuvent être
évités
exactement. Et enfin, dans tous les cas, dans toutes les guerres, il y a des dommages collatéraux, ça on le sait, on l'a déjà vécu plusieurs fois, mais je pense qu'il y a des dommages qui ont été pris, des risques qui ont été pris, ou même par ces prototypes expérimentaux, mais qui sont quand même mis en œuvre, de drones qui scannent en permanence qui volent au-dessus et qui, s'ils remarquent quelque chose de anormal entre guillemets, vont lâcher quelque chose. Mmh. Ils peuvent très bien prendre un camion d'armement, enfin prendre un camion de chèvres pour un camion d'armement, balancer une bombe et tuer 15 civils et avec aucune arme dedans.
0952 368 531, si vous voulez nous appeler, n'hésitez pas, nous sommes là jusqu'à 13h. 0952 368 531. Louis, c'est à toi.
Alors moi je pense pouvoir dire également, pour rebondir sur les propos de Lou, j'en suis pas sûr, on n'a aucune source fiable, mais je pense qu'on peut dire qu'on a fait plus de morts civiles, nous, la France, en Syrie, que eux, en France.
Ah, mais après, c'est là où il y en a ce conflit qui rentre en jeu, c'est que eux, ils l'ont fait.
Je
ne
suis
manière...
pas certain de ça non, du non, tout, non, non, je n'ai pas les chiffres non plus, mais il faut faire attention à ce qu'on dit, Louis, quand même.
Mais si on prend ça en compte, parce que sur la longue durée, parce que ce qui nous est arrivé, ça a duré, enfin, duré entre guillemets, ça a duré quelques millisecondes. Je veux dire, juste le temps d'une explosion, pas plus. Enfin, après, je veux dire, avec les personnes qui plus tard ont décédé des blessures, mais dans le sens où nous, c'est quelque chose qui, vu qu'on le fait entre guillemets, au coup à coup, on lance une bombe, on revient, on relance une bombe, je pense que sur le long terme, c'est possible qu'on fasse plus de dégâts collatéraux. Sauf que nous, on le fait en se reposant sur les bases de la démocratie. Et
c'est une différence de taille.
Ouais, c'est ça.
C'est-à-dire mais que nous, c'est au nom de la démocratie.
Ouais, c'est ça. Et c'est là, parce que eux, c'est au nom de leur constitution. Donc,
un mort est un mort, on est d'accord, c'est ça, surtout dans les civils, mais c'est au nom de ces fameuses valeurs, liberté, égalité, fratérité, voilà, un peu partagées par le monde entier.
Exactement.
Quand même.
C'est ça, parce que si on se place du côté de la France, nous, et je pense que tout le monde ici dans la salle et que tout le monde en France soutient ces valeurs de liberté, égalité, de fratérnité, enfin, je l'espère, et même si en ce moment elles sont un peu, entre guillemets,
mises à mal,
exactement. Mais après, si on se met du côté de Daesh, eux, ils ont d'autres valeurs. Et on se bat tous les deux pour nos valeurs. Donc, je sais pas, c'est un combat un peu étrange, je trouve.
Bah, si on peut appeler ça des valeurs de leur côté à eux, non, mais c'est forcément subjectif. Ouais, enfin, bon, à un moment donné,
pour eux, c'est des valeurs.
Les nôtres en sont vraiment. Oui, pour eux.
Mais
c'est la barbarie, c'est pas des valeurs.
Pour eux, nous, nos valeurs ne sont pas des valeurs parce que ce ne sont pas les leurs. Et pour nous, leurs valeurs, même si elles sont, d'accord, soyons réalistes, très étranges, et barbares.
Bah, la simple façon qu'ils ont de se tuer,
c'est ça.
Montre qu'ils n'ont pas la même notion de la vie que nous.
Voilà.
Enfin,
oui.
Ça n'a aucun prix, la vie. Enfin, surtout la vie des autres, mais même la leur, parce que finalement... enfin, il y en a quand même qui sont encore un peu en cavale, et ceux-là, on a l'impression qu'ils sont peut-être plus malins. On viendra peut-être dans un deuxième temps, j'écoute juste Lucien avant, mais sur les causes, comment on peut expliquer qu'il y a des gens quasiment de votre âge, hein, parfois plus jeunes, parfois plus vieux, mais à peine plus vieux, qui parfois sont allés à l'école, ont une éducation, une instruction, et se retrouvent à devenir ça, quoi. Ces barbares-là, ça paraît assez incroyable. Maintenant, il y a aussi peut-être la possibilité, effectivement, que ça soit un peu des sous-fifres, comme on dit, hein, ceux qui se font sauter la cervelle, et que les cerveaux, eux, soient un peu plus malins que ça, si je puis dire, et les embrigadeurs et pas les embrigadés, et soient à l'abri ou, comme par hasard, en fuite, hein, parce qu'ils se tuent pas tous non plus. Donc, il faut relativiser ça.
Du coup,
Lucien, je sais plus qui me dit du coup. Ouais. C'est Lucien, et on écoute après tous les autres, puisque tout le monde demande la parole. Je leur donne volontiers juste après Lucien.
Parler de quelque chose avant d'aborder ça. Mm-hmm. Du côté Price for Paris, moi ça m'a un petit peu interloqué. Je veux bien qu'on prie ou ait une pensée, mais ça m'a fait un peu bizarre d'entendre le mot prier. Ça m'a fait un peu penser à, comme catholique contre musulman, vu qu'on a un passé catholique, et ce qui fait que des gens qu'on pourrait dire un peu mononeurones, qui feraient des amalgames contre les musulmans, il y aurait, je pense,
prier, c'est assez œcuménique. Oui. Les musulmans prient,
ça me pose aucun problème de prier ou d'avoir une
Il y en a qui prient pas, tu veux dire. Mais c'est vrai.
Ce que je veux dire, c'est que
les laïcs.
Une pensée, ouais, c'est pour un pays laïque, ça me fait bizarre d'avoir comme logo Price for Paris.
D'accord.
C'est tout. Et ça fait un peu, ouais, c'est ça, musulman contre catholique.
Je suis pas certain quand même que c'est l'esprit,
non, c'est
de
pas
du tout, mais bon, d'accord, il y a le mot prier qui te gêne, je peux l'entendre. Oui. Peut-être qu'on aurait pu mettre penser pour Paris ou solidaire avec Paris, peut-être pas prier. Quentin.
Pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure,
c'est-à-dire
sur
le nombre
de civils.
Non, pas de civils.
De gens qui deviennent...
Non plus.
Okay.
C'est pour ça qu'on te demande de
non,
préciser.
Le nombre de terroristes, de gens qui sont, qui sont sur liste rouge, quand vous dites qu'il y en a un peu...
Sur les fiches S, tu veux dire?
Ouais, voilà.
Sur liste rouge, les fiches S, ça s'appelle.
Ouais, fiches S.
Renseignement français.
Eh ben, quand vous dites un peu, je crois que je n'ai plus les chiffres.
C'est autour de 1000, me semble-t-il.
Voilà, 1000, et je crois qu'on en a arrêté 200 ou un truc dans le genre. Donc, oui, c'est un peu inquiétant quand même. Et puis, c'est un peu aussi qu'ils arrivent à passer les frontières comme ça. C'est bizarre, je ne sais pas comment c'est possible d'ailleurs. Que...
Les gens classés en fiche S ne sont pas forcément des terroristes aussi. Il ne faut pas
oui,
faire un amalgame, ça peut juste être supposé. Ce sont des suspects terroristes.
En puissance, mais
est-ce
ils sont
que
pas
ça
forcément.
En sont...
C'est qu'ils ont commis des actes
pas, oui,
de...
Oui, ça, c'est vrai qu'on ne sait pas si c'est des terroristes après.
Ou qu'ils ont été en relation avec des terroristes, mais effectivement, heureusement, ils ne vont pas tous devenir terroristes. Enfin, j'espère.
Espérons-le.
Sur les causes, peut-être, vous voulez qu'on parle de ça, moi, vous voulez continuer sur ce sujet-là. Est-ce que ça vous interroge pas ? J'imagine que oui, mais comment on peut expliquer ça ? Inexplicable, hein, d'une certaine manière, c'est expliqué inexplicable, mais que, encore une fois, des gens qui sont plutôt allés à l'école, mais j'allais dire peu importe, mais pas tout à fait quand même, parce que je crois qu'on vous apprend plutôt d'autres valeurs que celles-là quand même, à l'école française en particulier, mais dans la plupart des écoles du monde, à réfléchir, à ne pas vous faire laver le cerveau. Et finalement, ces gens-là se font laver le cerveau. Comment c'est possible d'après vous ? Est-ce qu'on peut tout expliquer par le contexte familial, le chômage, parce qu'on a entendu ça aussi, peut-être en partie, mais enfin la plupart des gens qui sont au chômage et qui sont dans la galère, comme on dit, heureusement ne finissent pas terroristes. Oui, Maxime.
Donc moi, j'en ai déjà longtemps débattu avec Lucien, il y a une semaine.
Vous nous faites un CCC hors CCC, mais voilà. C'est bien, vous préparez comme ça.
Et donc bon, on n'était pas d'accord. Hein. Et donc pour moi, c'est sûr que le milieu favorise forcément. Après, faut voir qu'il y a aussi des gens qui ont eu une éducation, comme vous dites, très normale, qui sont allés à l'école, qui ont été instruits comme nous, et qui deviennent un jour, qui font partie de ceux qui après vont se faire sauter chez nous. Et donc, je reprends le terme que vous avez utilisé, c'est ça, je pense qu'il y a du lavage de cerveau à un moment par des gens qui sont, je sais pas si c'est de l'intelligence, mais qui arrivent en tout cas.
Dictature.
Ouais, voilà, qui arrivent en tout cas. À faire oublier tout ce qu'on nous a appris avant, toutes nos valeurs, tous nos principes, et qui du coup nous font devenir des robots, plus des hommes en tout cas, on perd toute notre humanité et on devient. On devient programmé et on n'est plus vraiment, entre guillemets, maître
de
nos actes.
C'est Quentin qui finit les phrases de Maxime, parce que souvent c'est moi. Et je vous demande pardon si parfois je parle un peu trop, parce que le but ce soit vous qui parliez. Mais là, c'était Quentin. Je précise, rendant à Quentin ce qui appartient à Quentin et qui finissait les phrases de Maxime.
Prends exemple sur vous, monsieur.
Et c'est la solidarité. Merci. C'est pour vous aider toujours. Et toi, tu as fait la même chose. 0952 pour nous aider, chères auditrices, chers auditeurs, dans ce sujet très, 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 très compliqué. On serait intéressé au 0952 368 531 que vous interveniez, vous aussi, que vous disiez sur quoi vous êtes d'accord ou pas, tous ces sujets qu'on évoque depuis le début. Vos émotions, vos impressions, comment vous êtes depuis ce fameux vendredi 13 ? Est-ce qu'on est déjà en train de s'habituer ? Est-ce que c'est normal ? Quentin disait tout à l'heure que peut-être on en parle trop. Louis, je crois, disait que c'était d'une certaine manière rendre service à ces gens-là qu'il faut encore parler d'eux. Non, c'était toujours Quentin. Bon, est-ce qu'on va pouvoir se remettre de ça ? Est-ce qu'on est déjà remis ? Est-ce qu'on ne s'est pas remis trop vite après Charlie aussi ? Enfin voilà, je pose plein de questions en vrac. Remis entre guillemets, pas les familles concernées évidemment, et pas beaucoup de gens, mais peut-être déjà, c'était un peu derrière nous. Quoi. Ça ne devait pas se reproduire une deuxième fois, et surtout pas dans une autre circonstance comme celle-là. Oui ?
On n'est pas totalement remis, puisqu'on en parle toujours, hein, mais et puis il y a toujours des frappes qui sont en cours, et...
Vous avez souhaité en parler, hein, je précise ça aussi, parce qu'on décide des sujets ensemble, j'en suggère beaucoup, mais voilà, vous avez tous insisté.
Non, c'est
pas
un sujet qui est très intéressant.
Vous vouliez parler de ça aujourd'hui, vous.
Et il y a vraiment plein de choses à dire dessus, et oui, non, non. Et oui, non, je pense que oui, tout le monde en parle encore, parce que ouais, il y a encore des frappes qui sont en cours, et il y a toujours un affrontement entre nous et Daesh, et oui.
Mmh. Oui, on t'écoute.
Oui, je voulais juste revenir sur le problème sans solution de l'affrontement entre Daesh et l'union de ceux qui partagent nos valeurs. Ça peut paraître utopique de penser qu'une quelconque paix peut arriver entre nous et ces gens-là. Mais j'aimerais juste citer des noms qui sont pour moi des exemples et pour tous des exemples de paix. Qui sont, par exemple, Martin Luther King, que j'ai cité en classe justement,
Parle bien en face du micro.
Une précédente fois. Mm-hmm. contre toute attente, ces gens-là ont réussi à faire d'une cause qui semblait perdue, qui semblait impossible, bah justement la rendre possible sans violence. Mm-hmm. Sans violence. Et même si ça peut paraître un peu tiré par les cheveux de pouvoir penser que plus aucune... allez, dans 20 ans, dans 30 ans, plus aucune violence ne surgira d'un coup comme ça un vendredi 13, bah, il faut y croire parce que ça peut arriver, ça doit arriver, et il faut tout faire pour qu'on y arrive, parce que ça, comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait un cycle de violence qui finira pas.
Ça a été un grand moment d'histoire, et Martin Luther King, un grand homme de l'histoire, mais est-ce que c'est la même époque? Enfin, par définition non, mais est-ce qu'on n'a pas affaire à, enfin, à quelque chose d'une dimension supérieure encore, qui nous dépasse forcément, parce que c'est, enfin, on peut pas comparer les violences, mais voilà, c'était un autre contexte, c'était l'apartheid. Là, on a vraiment affaire à des gens qui, de toute façon, par définition, c'est bien ça qui peut-être, mais dites-moi si je me trompe, hein, c'est pas mon avis qui importe ici, mais bien le vôtre, mais qui font peur, puisque de toute façon, eux n'ont peur de rien, à commencer par leur propre mort, en tout cas pour beaucoup. Et ça nous dépasse un peu, ça. C'est-à-dire que on va peut-être parler de l'état d'urgence. Est-ce que ça vous rassure? Est-ce que vous pensez que c'est indispensable? Mais voilà, on a affaire à un ennemi qui est un peu à la fois visible, invisible, je ne sais pas si je suis très clair, mais oui. Voilà, Daesh bien sûr, mais cette espèce de terrorisme intellectuel est quand même assez disparate et très puissant. Oui.
On pourrait faire un rapprochement aussi avec les deux guerres mondiales qui ont eu lieu il y a 100 ans pour la première. Les Allemands ou les Français qui allaient sur le champ de bataille, pour certains, savaient qu'ils n'allaient pas revenir. C'est un peu pareil.
Mmh. Ben vous avez vu tous ces jeunes aussi qui s'inscrivent à l'armée, ouais, depuis, oui, plusieurs semaines. Oui, oui. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que c'est un moyen d'être solidaire avec son pays.
Mmh. Vous comprenez,
oui,
ça?
Oui. Moi, ça me fait plaisir.
Moi, je comprends tout à fait. Ouais.
Alors, si moi, je t'écoute. Maxime.
D'un côté, ça me fait entre guillemets plaisir, et de l'autre, j'espère juste que c'est pas juste des jeunes qui y vont parce que, enfin, voilà, qui font pas. J'espère que c'est des gens qui font pas d'amalgame et qui y vont juste, ouais, entre guillemets, pour le plaisir de se venger ou des choses comme ça. J'espère qu'ils y vont juste par rapport parce qu'ils sont
pour aider notre pays.
Voilà, pour conserver nos valeurs et pour entre guillemets nous défendre.
Parce que tout à l'heure, je voudrais pas vous mettre en face d'un paradoxe, en tout cas de certains. C'était plutôt Louis, je crois, mais il va prendre la parole ici pour me répondre. Vous sembliez être un peu sceptique sur les frappes aériennes, et là, vous semblez être d'accord avec des jeunes qui sont prêts à s'engager, et c'est pas eux qui vont choisir, peut-être pour des frappes aériennes, mais peut-être aussi pour des interventions terrestres, on ne sait pas.
Donc
les autres, mais pas vous, quoi.
Comme
non, je suis un peu provocateur, Louis.
Moi, je suis pas d'accord avec cet engagement dans l'armée.
D'accord, voilà. Donc c'est cohérent que tu disais tout à l'heure.
Bien sûr que si, que je vois comment. Mais en fait, moi, ça me paraît un peu absurde de pour aller répondre aux gens qu'on a tués, aller en tuer d'autres. Enfin, moi, ça me paraît absurde.
Mais une guerre sans mort, on est bien d'accord, ça n'existe pas. Enfin, ça n'a jamais existé.
En parlant de guerre, moi, je trouve qu'on a déclaré cette guerre beaucoup trop vite. On n'a pas eu une véritable réflexion dessus. La guerre a été déclarée très tôt, sans vraiment chercher à savoir s'il n'y avait pas une alternative à la guerre. On est allé se dire que la solution la plus logique était allée de leur jeter des bombes dessus. Ce qui est vrai. Logiquement, c'est vrai que c'est la première chose à laquelle j'ai moi aussi pensé. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas eu une autre une alternative, une autre solution que je n'ai pas d'ailleurs, hein, j'ai jamais eu à faire ce genre de choses, mais voilà, je trouve que c'est
Louis, est-ce que tu es totalement, est-ce que vous êtes, m'adresse à toi parce que c'est toi qui viens d'intervenir, totalement persuadé, en toute objectivité si possible, qu'on puisse être objectif dans un sujet aussi compliqué que celui-là, que si demain, la France et l'ensemble du monde, mais on est en France, ça s'est passé en France, décide d'arrêter toute frappe et toute représailles, que ça en est fini de Daesh et que Daesh ne s'en prendra plus à la France?
Non. C'est juste impossible.
C'est pas tout.
Alors
à
ça,
fait
c'est Maxime qui a répondu. Si, d'une certaine manière, puisque tu, depuis le début, tu dis quand même, c'est ton droit, hein, mais que à force d'en rajouter et d'y aller, vont continuer à remonter.
Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire. Je dis qu'il ne faut pas faire la guerre. C'est différent. Moi, je pense qu'il y aurait peut-être eu une alternative.
C'est ce qu'il demande dans la revendication. Si vous arrêtez de nous faire la guerre, on n'attaquera plus la France. Est-on obligé de les croire? C'est juste la question que je te pose.
Bah, non. Bah,
on n'est pas obligé.
Non, mais non. Là, par contre, je suis désolé avec Maxime et Quentin. Enfin, on n'est pas obligé de les croire. Mais je pense qu'on
c'est à nos valeurs. C'est la liberté. La guerre, c'est presque malheureusement aussi pour eux un prétexte, parce que de toute façon, ils n'ont pas peur de mourir.
Mais est-ce que voilà, justement, c'est parce que là, eux, ils n'ont pas peur de mourir. De manière générale, ça se trouve, on prend des cas comme ceux qui sont arrivés le vendredi 13 comme des généralités, mais c'est bien possible que pour une généralité, il n'ait pas peur de mourir.
Un certain nombre qui sont communs.
Voilà.
Peut-être pas
tous. Mais si eux, dans leur revendication, ils disent arrêtez de nous faire la guerre, on arrête. Je vois pas pourquoi, entre guillemets, on utiliserait le soutien de des actes que eux ils ont fait. Donc on a un appel.
Bon bah tu finiras ta phrase plus tard.
Pourquoi ouais c'est ça.
Lucien finit la phrase et tout.
Pourquoi est-ce que on attaquerait
Moi, j'ai pas compris.
Pourquoi est-ce qu'on les attaquerait alors qu'on a la possibilité de ne pas de plus les attaquer vu qu'ils nous proposent une alternative pour arrêter.
Mais donc tu crois toi des barbares?
Je n'ai pas envie de croire je n'ai pas envie de croire de barbares, mais
c'est
je
un peu
dis,
si on arrête de croire des gens comme ça,
si on fait en sorte qu'il y ait moins de morts et si le but, si la seule chose qu'on doit faire c'est arrêter de faire la guerre, et ben bah, autant arrêter de faire la guerre.
D'accord, on a un appel, me dit-on. Alors on va prendre cette auditrice ou cet auditeur. On va pouvoir les entendre à l'antenne et ceux qui nous écoutent aussi. Oui.
Allô.
Allô, j'entends très très loin. Bonjour, madame, me semble-t-il.
Oui, je vous entends. Ouais,
là, je vous entends très bien. Vous entendez bien?
Pas trop.
Alors, moi, parfaitement. Donc, nos techniciens vont essayer d'améliorer tout ça.
Je vous entends très très loin. Hein.
Alors, moi, beaucoup mieux. Nous, beaucoup mieux.
Allô?
Oui. Bonjour, madame.
Oui, bonjour.
C'est mieux comme ça? Vous nous entendez? Vous m'entendez?
Oui, un petit peu mieux. Là.
Alors, est-ce que vous aviez quelque chose à dire à ces jeunes qui sont autour de la table?
Eh bien, oui, à propos des paroles que vient de dire que dit Louis, là, je crois que c'est Louis.
Ah, c'est Louis.
Qui n'est pas du tout d'accord pour qu'on intervienne donc en Syrie.
Oui.
Alors je voulais lui poser la question. Quelles sont les propositions qu'il peut faire alors pour ne pas intervenir et dire mais qu'est-ce qu'on peut faire?
Surtout qu'il a dit effectivement qu'il ne s'agit pas de rien faire. Vous avez raison, mais sans forcément dire ce qu'il fallait faire. Il a dit qu'il ne fallait pas rien faire. Dis-moi si je me trompe, mais pas la guerre. C'est ça?
Oui.
Alors, réponds à cette dame, Louis.
Alors, je suis d'accord, c'est ce que j'ai dit exactement. Et j'ai aussi dit que je n'avais pas les réponses. J'ai dit que, pour moi, la guerre, c'est jamais une solution. Mais je pense, je ne suis pas spécialisé, je ne suis pas un politique, je n'ai pas été formé à des situations de crise. Je ne suis pas dans la capacité, actuellement, et sans recherche très approfondie, de trouver une solution à un problème dont je ne perçois même pas tous les angles, parce qu'on ne peut pas percevoir tous les angles de notre position. Mais je pense qu'on n'a pas cherché réellement à solutionner ce problème,
à
résoudre ce problème, oui, merci. Peut-être qu'il aurait suffi de créer... j'avoue que je n'ai pas la solution.
Est-ce que Louis, au moment où on parle, là, à l'heure c'est pas la moins mauvaise des solutions? Sans dire qu'évidemment, la guerre n'est jamais la solution, mais puisque tu dis toi-même que tu n'en vois pas d'autres. Alors au final, entre...
Oui,
madame, je ne sais pas si je trahis votre pensée, mais c'est un peu ça que vous voulez dire. Vous êtes visiblement pour l'intervention en Syrie.
Mais franchement, je pense déjà... bon, peut-être qu'ils n'ont pas l'esprit de vengeance, c'est ce qu'on dit, entre guillemets, ça... Mais je pense à toutes les familles qui ont perdu leurs enfants aussi. Hein.
Bien sûr.
Et est-ce qu'on pense à toutes les familles syriennes qu'on a tuées?
Si on ne fait rien, et parce que vous croyez que si on ne fait rien, ils ne continueront pas quand même. Hein.
Louis vous dit, est-ce que vous pensez aux familles syriennes qui ont été tuées?
Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont été tuées? Enfin, je ne sais pas. Oui, mais bien sûr, il y a ce côté-là aussi.
On ne sait pas, c'est clair, mais...
Ben oui, bon, c'est un grand débat, hein.
Et est-ce que vous pensez, vous, si je puis me permettre, je peux vous poser une question, madame?
Oui.
Est-ce que vous pensez, c'est ce qu'on disait il y a 5 minutes, que si on a...
Très, très, très mal,
Est-ce alors... que si on arrête toute intervention, vous pensez que Daesh va arrêter sa lutte contre nos valeurs?
J'ai pas compris du tout.
Est-ce que vous pensez... Allô?
Oui, j'entends très, très mal.
Est-ce que vous pensez que si la France arrête toute intervention en Syrie, pour autant, Daesh va arrêter toute représailles contre la France?
Ah non, ça va pas.
D'accord.
Je suis d'accord. C'est juste impossible. Tout à l'heure,
Maxime est d'accord avec vous.
Tout à l'heure, Lou, tu nous parlais, tu disais le contraire en fait, si je me rappelle bien, qu'il fallait pas omettre la possibilité que si la France arrêtait d'attaquer la Syrie.
Il a suggéré ça.
Voilà. Et donc, je suis pas d'accord parce que là, on a affaire à des gens quand même qui sont juste totalement convaincus en quoi ils pensent et qui n'arrêteront jamais. Et qu'il faut. Enfin, je suis pas quelqu'un de. Qui incite à la guerre ou des choses comme ça. Mmh.
de nature, mais, personne, enfin. Mais là je suis d'accord pour sur le fait qu'il faut entre guillemets prendre le mal à la racine et il faut trouver des moyens de stopper ça et le plus rapidement possible.
Et puis la parole de Daesh, franchement, par rapport en termes de crédibilité.
Ce à quoi tu fais référence, Maxime, c'est la phrase que j'ai pas vraiment eu le temps de finir. J'ai dû m'occuper du.
À cause de madame. Vous êtes toujours là, madame.
Je suis là, oui, je voulais dire autre chose, mais c'est vrai, je vous écoute.
J'en ai pour deux secondes.
Lou vous répond et on vous écoute.
C'est en rapport avec ce que Maxime tu dis. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas eu le temps vraiment de développer. Est-ce qu'on peut les croire ou est-ce qu'on peut pas les croire? Parce que là, on parle de parole, entre guillemets, de. Ils nous font la promesse entre guillemets que si on arrête ils arrêtent aussi, mais là on dirait un peu il faut que t'arrêtes en premier, on dirait un peu deux enfants qui se font la chamaille. Genre si t'arrêtes pas, si tu continues je continue.
Oui mais Lou, pardon, il y a surtout un enfant terroriste et il y a un adulte démocrate.
Je sais très bien mais je pense qu'il y a, enfin pareil, je suis pas un grand politicien et je ne veux pas devenir un grand politicien. Mais enfin moi de manière générale, je suis contre la guerre et contre l'armée. Donc c'est un peu dur de positionner de manière
forcément on aurait dû commencer par ça avec ce postulat là. Quoi qu'il arrive, c'est pas totalement inédite.
Non. C'est pas que de manière générale, je suis contre la guerre et contre l'armée, c'est que je suis contre les morts inutiles.
Mais ça tout le monde.
Mais tout le monde. Mais non, bah, malheureusement apparemment pas.
À part ces barbares, oui, mais justement
pas justement.
Et c'est à eux que tu accordes la parole, c'est ça que je.
Ah non, j'accorde la parole à personne. J'essaie de prendre entre guillemets quelque chose de neutre, même si c'est très dur avec ce qui s'est passé.
Bien sûr.
Mais je veux dire, si d'aucun des camps il y a entre guillemets une accalmie, parce que eux ils nous disent si vous continuez d'attaquer, nous on risque de refaire pareil. Enfin on risque, c'est même on va continuer. Mais après si la France, elle, ne fait rien pour essayer de calmer le jeu, et si d'autre côté Daesh ne fait rien pour calmer le jeu, ça risque de durer très longtemps. Et je sais pas.
De toute façon, ça risque de durer un certain temps. Ça risque de durer
très longtemps, en tous les cas, malheureusement.
On est parti. Enfin, c'est. Voilà, vous qui êtes jeunes, c'est souvent ce qu'on entend. Hein. Les jeunes risquent d'être vivre dans des périodes un peu troublées sans être
aussi que la,
de mauvais augure. Madame, vous êtes toujours
la madame
là.
Juste,
on va peut-être vous.
Du téléphone, on va la laisser.
Vous laisser pour pas que ça vous coûte trop cher, mais juste écoutez Noé. Non, pardon, vous voulez rajouter quelque chose.
Vous laissez parler.
Je vous écoute.
C'est toujours là, oui. Oui, je voulais dire autre chose. Tous ces jeunes donc, qui partent faire la guerre en Syrie,
djihad,
ouais, dans un autre pays, la solution, si on ne peut pas les empêcher de partir, ok, il faut les empêcher de revenir, c'est tout, déjà. Voilà.
Certains, on les met de cette vie-là.
Et voilà, ça, peut-être on arrivera à arrêter quelque chose, voilà, les stopper, quand ils veulent revenir, les stopper aux frontières, et puis ils ne reviennent pas, puis voilà.
Alors pour l'instant, la loi ne le permet pas, mais bon, la loi peut se changer.
Oui,
ce que certains disent, on ne va pas trop entrer dans la politique pour les raisons qu'on a dites au début.
Non,
mais oui, bien sûr, c'est une hypothèse qui a été émise. Vous êtes libre.
Merci pour votre émission, je continue à vous écouter.
C'est très gentil,
ça fait plaisir.
Au revoir, merci.
Merci à vous, fidèle auditrice alors.
Au revoir.
Au revoir madame.
Au revoir.
Noé, tu veux dire quelque chose? Elle répond, elle n'est plus là, mais elle nous écoute encore. Elle n'est plus là, on vient d'entendre bip bip bip. Mais elle est toujours derrière sa radio.
Oui, moi je tenais à défendre Louis parce que je défends des idées.
Il n'est pas attaqué, hein, mais on discute, on est là pour débattre, c'est ça qui est intéressant ici.
Non, mais en fait là, moi par exemple, je ne suis pas là pour proposer des alternatives à la guerre.
Aucun d'entre nous n'est en mesure ici d'avoir la compétence.
On est juste en train d'exposer nos ressentis, et moi en tant qu'enfant choqué, mon positionnement.
Grand enfant quand même.
Grand enfant.
Adolescent choqué.
Adolescent choqué, si vous voulez. Mon positionnement est clair, j'ai pas envie qu'un enfant de mon âge qui se débrouille pour survivre en Syrie voit sa famille exterminée, parce que c'est ça le mot, exactement de la même façon que eux ils l'ont fait, c'est pas ça les valeurs.
Alors, je suis obligé de t'arrêter, Noé, parce que tu ne peux pas dire de la même façon qu'eux. En aucun cas l'armée française va aller à la terrasse d'un café en Syrie tuer des enfants, des adolescents, des jeunes.
C'est des bombes.
Mais est-ce que ce qu'on fait, ça vaut mieux que ça?
Je pense pas qu'il y ait. Je pense que là, vous êtes un peu dans le fantasme. Enfin, moi, je n'ai pas les chiffres précis, mais j'ai lu beaucoup de choses, comme vous.
Pensez que c'est utopiste.
De preuves, enfin, et c'est même pas de preuves, enfin, de réalité. Vous avez un peu de fantasme autour de bombes qui arriveraient pile sur un endroit où il y a plein de civils. Il y en a forcément. Enfin, je pense que les journaux en parleraient, on est dans un pays démocratique et que la presse française relaterait ça. Elle reste libre, même si en période effectivement d'état d'urgence, tout le monde est plus prudent. Mais enfin voilà, j'entends des voix qui sont dissonantes. J'en vois des gens comme certains d'entre vous, Louis, qui sont carrément contre l'intervention, et chez les politiques et chez les autres. Donc voilà, je pense que la presse est toujours libre, même en état d'urgence. Donc la solidarité n'empêche pas la liberté d'expression. Oui, Louis, on va peut-être terminer. Et en puis fait, on passera à plus reposant peut-être.
Mars. Je tiens à dire que pour conclure, pour mon avis, je ne suis pas à 100% contre ce qui se passe en fait. Enfin, contre cette guerre.
Ah, il a évolué.
Je pense, mais c'est ce que je dis depuis le début.
Madame.
C'est que cette guerre a été proclamée trop rapidement sans chercher s'il y avait d'autres alternatives. Je peux comprendre que cette guerre est la seule alternative, mais je peux pas comprendre qu'on n'en ait pas cherché d'autres.
On n'a pas eu trop le temps, peut-être aussi.
Ouais, mais après,
il est probable
ça.
Que d'autres étaient cherchés, mais c'était la moins mauvaise. Je reviens sur ce que tout à l'heure. Moi, je suis pas le porte-parole
après,
de personne.
Quentin, juste qu'on n'a pas eu trop le temps, c'est peut-être qu'on n'a pas assez pris le temps, peut-être. Ça, je sais pas. Après, je sais vraiment pas comment ça s'est passé, parce que j'ai vraiment rien suivi à cette affaire.
Voilà, moi, je suis de l'avis de Lou, et je suis aussi d'accord avec lui. Je peux pas dire ça à 100% en étant sûr. Parce qu'il y a des choses que, en tant que civil, en tant que personne non appliquée
dans la
démocratie française.
Dans tout ce qu'on dit, en fait, faut prendre tout ce qu'on dit avec des grands peut-être par rapport à nos avis personnels.
Oui, c'est ça, voilà, depuis le début, de toute manière, le nombre de morts, tout ça.
C'est des grands peut-être avec des
mais
estimations
enfin,
et des avis personnels surtout.
Par rapport à la prise de on n'a pas assez pris de temps, franchement. Enfin,
je ne sais pas, après, moi je ne sais pas.
Moi j'en connais qui n'ont pas pris de temps non plus pour assassiner à la Kalachnikov 130 personnes.
Non, bien sûr.
Ah, ils ont quand même.
Alors la prise de temps, je veux bien qu'on aille trouver des excuses aux politiques en général et à ceux qui prennent les décisions, mais enfin, elle doit pas être facile non plus. Qui que ce soit,
c'est jamais facile à prendre des décisions pour tuer.
C'est des êtres humains d'abord.
Je pense que moi, je n'ai strictement rien à dire aux politiques parce que je pense qu'ils agissent de la. Enfin, on est dans une démocratie et ils font tout pour que ça se passe le mieux pour de manière générale pour la France et pour la démocratie de manière générale, mais. Ils ont réagi de la meilleure manière qu'ils pouvaient le faire.
Et parfois, le temps, on l'a pas.
C'est
ça s'appelle bien situation
c'est
d'urgence pour
oui,
ça,
bien sûr,
l'état
bien
d'urgence, il y a urgence.
C'est pour ça que je dis qu'on a peut-être pas eu le temps et de trouver une autre alternative.
Non, bien sûr, je dis pas le contraire.
Je suis d'accord avec vous, mais c'est juste que je pense qu'il y aurait peut-être pu en avoir une.
C'est vrai qu'on a manqué le temps.
Ils sont peut-être en train d'en trouver une autre.
Oui,
mais la solution aussi qu'ils ont à peu près, du moins que les djihadistes leur ont proposé, elle a peut-être pas été assez expliqué et évolué au peuple, justement pour savoir ce qu'en pensait le peuple, peut-être savoir ce que le peuple voudrait, parce que en étant français, on porte quand même les frappes qu'on fait au Daesh à Daesh et savoir si l'opinion était vraiment.
Vous savez qu'il y a un deuxième débat, la partie du peuple n'est pas franchement d'accord avec Bachar al-Assad quand même, donc le but aussi. Alors là, tous les pays ne sont pas d'accord, mais c'est de mettre hors d'état de nuire Bachar al-Assad, qui quand même a gazé sa propre population, il ne faut pas oublier ça non plus.
Oui.
Enfin, tout ça c'est compliqué, hein, tout ça s'imbrique l'un dans l'autre. Et voilà.
Ah bah, y a pas de souci, je vous mets en direct.
Alors, nous avons, c'est exceptionnel, une deuxième auditrice. Merci à vous.
Ce sujet fait débat.
Bah oui, c'était peut-être un peu attendu, mais c'est très bien que ça fasse le débat.
Allô ?
Allô ?
Oui, allô ?
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour monsieur, bonjour jeune homme, je ne sais pas, ça a l'air d'une voix jeune.
Monsieur.
Qu'est-ce que vous vouliez dire ?
Oui, j'aurais une réflexion à faire.
Oui.
On
vous écoute.
Pas très bien, là.
Alors, décidément, comme avec la dame. Nous, on vous entend très bien.
Oui, c'est bon, je vous entends.
On vous écoute.
Une réflexion à faire, poser une réflexion.
Oui.
C'était en Syrie, donc Daesh, ils ont leur pouvoir de l'armée grâce à l'économie. Et je voulais
le pétrole.
Poser la réflexion de donc ce pouvoir économique ils l'ont grâce au pétrole et ce pétrole ils le revendent donc en Syrie et la Syrie le revend donc aux Amériques en Amérique et aux Européens. Du coup est-ce que vu qu'on achète ce pétrole on n'aiderait pas le développement de Daesh et du coup ces actes qu'il fait en France et ailleurs aussi. Voilà, c'est tout.
Très bien, bonne question à laquelle on n'a dit pas de nominatif, mais le Premier ministre a répondu hier sur Europe 1 qu'on était sûr que, à sa connaissance, le pétrole qu'on achetait ne venait pas de Daesh. Juste réponse à un journaliste hier sur Europe 1. Voilà ce qu'il a répondu, c'est la réponse du Premier ministre. Oui, mais je sais que certains posent la question. Vous n'êtes pas effectivement le seul à poser la question.
Oui.
Louis ?
Je peux croire le Premier ministre, mais donc En passant sur son affirmation, pour moi, il y a bon, certes un peu de ce qu'on appelle de l'or rance, mais je pense
que... De l'or rance, d'accord, j'avais pas compris. C'est ça ?
Oui, l'or rance d'Arabie Saoudite, c'est le nom de cette affaire autour du pétrole vendu par les terroristes. Mais je pense aussi qu'on peut pas se considérer à 100% responsable de cela. On a...
Responsable. on... Et on favorise quand même en achetant leur pétrole, on leur fournit l'argent. S'ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus. Ils
oui, oui, bien sûr, mais on ne peut pas boycotter le pétrole dans la société dans laquelle on vit.
On n'est pas sûr qu'on achète le pétrole aussi.
On n'est même pas sûr que c'est leur pétrole, et boycotter le pétrole qu'on achète, c'est impossible.
Non, non, mais je ne dis pas que c'est la solution. Je pose juste la réflexion. Est-ce que ça ne serait pas un facteur qui permet le développement de Daesh?
Mais ça, bien sûr. Enfin, je suis bien sûr d'accord. Oui, oui, ça permet leur développement. Si c'est leur source de revenus. Sans source de revenus, c'est une source de revenus, forcément, ça va les aider à se développer. Mais après, comment y remédier, j'ai encore moins la réponse.
Bah, c'est un véritable d'ailleurs. État, ils s'appellent eux-mêmes, alors c'est parfois contesté par d'autres, évidemment, mais eux-mêmes se revendiquent de l'État islamique, et effectivement avec du pouvoir, avec de l'argent, dû au pétrole.
C'est d'ailleurs pour ça non, qu'on a, mis, on a fait des frappes aériennes aussi sur des puits pétroliers oui. et des centres ouais. de raffinerie.
Oui. Oui.
Bah merci en tout cas, merci beaucoup à vous. Pardon, on n'avait pas fini. Je vous laisse terminer. Oui, pardon, je vous
Allez-y.
Écoute, on vous écoute.
Allez-y.
Oui, non, je disais que c'était aussi une solution, une autre solution que lâcher des bombes sur des civils, vu que l'armée de Daesh, l'État islamique, se cache, enfin, est dans une population civile. Du coup, c'est vrai que les frappes aériennes sont un peu contestées par rapport à ça.
J'aimerais juste revenir sur le terme d'armée que vous venez d'employer. On ne peut pas vraiment parler d'armée islamique parce que, enfin, en quelque sorte, mais c'est du terrorisme.
Bah, ils sont armés quand même,
oui,
hein, malheureusement.
Le principe même du terrorisme, c'est qu'il n'y a pas vraiment une armée, mais justement qu'ils sont trop
des réseaux.
De soldats pour ne pas être obligés de faire des actions, pour être obligés de faire des actions en quelque sorte isolées à quelques-uns. Et,
c'est pas une armée nationale
on peut,
non plus.
On ne peut pas parler d'affrontement réellement d'armée.
C'est revendiqué, mais c'est quand même.
Ça complique les choses.
Oui. Des soldats armés.
Oui, c'est un groupe.
Voilà, un groupe armé,
groupe,
certes,
groupe.
Mais on ne peut pas parler d'armée.
Très bien, bah merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez fidèles à CCC. Au revoir, monsieur.
Oui, au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Allez, on va, parce qu'on est déjà un peu en retard, aller sur Mars, juste quelques minutes. Évidemment, ça paraît dérisoire comme sujet par rapport au premier, mais on l'avait déjà prévu il y a un petit moment. Je trouvais qu'il y avait un petit lien poétique entre les deux. Peut-être qu'effectivement, cette planète un peu irrespirable, la COP21, voire le CCC dernier, on en avait déjà parlé, et tout ce qui se passe en France et dans le monde, qui n'est pas vraiment la paix, peut-être que sur Mars, c'est paisible. Est-ce que c'est de la folie, cette femme qui paye de l'argent et décide de... Est-ce que d'abord, elle peut croire ces gens-là? Elle paye une société privée pour dire dans 10 ans je vais sur Mars, je serai la première à aller sur Mars. Oui Lou, est-ce que vous iriez, ça vous ferait envie?
J'en ai parlé très rapidement avec Louis sur le trajet pour venir jusqu'à CCC. On a un peu remis nos cartes dans notre main en parlant un peu des sujets qu'on allait aborder. Et sur Mars, moi ça m'a fait bien rire parce que je m'intéresse beaucoup scientifiquement à l'avancée des autres planètes, la conquête spatiale. Et ça m'a fait rire parce que elle dit dans 10 ans je serai sur Mars. Mais, petit bémol, dans 10 ans, il est très probable qu'on ne soit pas sur Mars et qu'on n'ait pas encore posé le pied sur Mars.
Donc elle se fait escroquer par la
Complètement,
société.
Elle se fait carrément escroquer. Ouais.
Non mais dans ce problème-là, c'est, j'en ai parlé avec lui, c'est probable que quand elle puisse aller sur Mars, elle soit morte.
Et toi, ça te dirait si c'était possible d'y aller?
Mais en fait, le problème c'est que...
Un voyage sans retour en plus, il y avait dans l'article.
Non, je sais bien. Là, avec les moyens qu'on a actuellement, le voyage sans retour, c'est possiblement parce qu'il se ferait sur presque une demi-génération à l'aller. Du coup... C'est tellement long d'aller sur Mars.
Faire des bébés en route, tu veux dire? Je comprends.
Ah non, bien sûr.
Ça se trouve, elle serait morte en arrivant à Mars.
9 mois.
Non, mais je
elle serait peut-être morte
pas.
En arrivant
non,
sur
non,
Mars.
Je t'écoute.
Tu es en première scientifique, je te prends au sérieux.
Dans le sens où maintenant, on essaie d'atteindre des choses tellement loin qu'on aurait pour plusieurs générations d'y aller. Sérieusement, je ne rigole pas. Dans le sens où peut-être tu rentres dans ton vaisseau et 20 ans après, tu arrives sur Mars tout content.
D'accord.
T'as ton gosse.
Donc finalement, tu n'es pas tout seul.
T'es pas tout seul.
C'est bien, c'est la peur d'être
Non, bien
seul.
Sûr. Mais, et ce problème-là aussi, c'est que possiblement déjà, si on a. Dans 10 ans, il est très peu probable qu'on puisse aller sur Mars de manière civile, entre guillemets. Mais aussi, il est très probable que même si tu rentres dans ton vaisseau, t'en sortes froid, quoi. Enfin...
D'accord. Bah, c'est une américaine, hein. Vous savez bien que les États-Unis, ils sont toujours.
Non, bien sûr.
Ils veulent être les premiers.
Ils ont pas froid aux yeux.
Bon, là, c'est une jeune fille individuelle de 26 ans.
Ils veulent se refroidir, justement.
Ils ont plein de projets.
Jeune femme. Oui, Louis.
Alors, je pense aussi qu'il y a un petit bémol à la conquête spatiale. En fait, il y a beaucoup d'études, de regards qui ont été portés sur notre société montrent que la conquête spatiale va ralentir et ne va plus connaître un essor comme elle a connu. Auparavant, parce qu'on n'a plus vraiment d'intérêt, à part la curiosité scientifique, d'aller dans l'espace. En fait, le véritable intérêt d'aller dans l'espace serait qu'on y trouve une ressource rare sur Terre et très utile en grande quantité. Car à présent, à part vraiment une curiosité scientifique, on n'a pas d'intérêt à aller sur d'autres planètes pour le moment. Et c'est ça qui va faire un frein à la conquête spatiale. Donc j'ai un peu peur pour elle que son projet ne se concrétise pas.
Alors plus, là aussi, avec ce qu'on a dit avant,
elle se donne une marge de 10 ans. Quoi.
Est-ce qu'on appelle ça le projet Mars One,
guerre, hein, entre les Russes, les Américains
Mars pour One.
Être le premier, est-ce que ouais. Le nom du projet est Mars One?
C'est possible, je ne sais pas.
C'est possible. J'ai lu ça notamment dans un article de VSD. Il y a une quinzaine de jours, mais ça a été évoqué par plusieurs médias.
Sur un article d'Européen.
Il y a aussi une chose que j'aimerais, ce que tu dis, Louis, je trouve ça très intéressant, parce qu'en fait, le problème, je pense, du genre humain de manière générale, c'est, ça s'est prouvé, et ça se prouve encore plus de plus en plus, par avec la COP21, par exemple, qui va se mettre en place, qu'on a l'air très très fort pour quand même vachement tout détruire autour de nous. Et ce que non mais enfin j'exagère totalement.
Ah bah si c'est pour aller faire sur Mars ce qui se passe en ce
moment. Non, pas vraiment.
Non mais un nouveau Daesh voilà, et non on veut pas.
Ce que je veux dire c'est que j'ai peur que si on arrive sur Mars, ce qui est possible, on les met tous sur Mars.
Voilà qui s'en aille sur Mars ensemble.
Mais c'est possible idée. Sur Mars de faire une atmosphère sur Mars, c'est largement possible grâce à des bactéries. C'est très complexe comme procédé, mais c'est possible de le faire, de produire en une cinquantaine d'années ou une centaine d'années, je crois, une atmosphère sur Mars viable. Mais le problème, c'est que si on fait comme sur la planète Terre, sachant que Mars est beaucoup plus petite, on risque d'en avoir fini avec la planète Mars, parce que on a remarqué que le développement, de manière générale, s'est fait de plus en plus rapidement. Alors que là, on a déjà ce qu'il nous faut entre guillemets pour détruire la planète. Alors que si on va sur une planète encore plus petite et qu'on y va à beaucoup, on risque de, gâcher quelque chose qui aurait pu vivre beaucoup plus longtemps.
Il y en a qui veulent être astronautes parmi vous, non? Parce qu'il y a pas mal de scientifiques autour de la table.
Juste pour revenir sur la taille de Mars, elle n'est pas beaucoup plus petite que la Terre. Elle est considérée comme la sœur au niveau de la taille.
C'est pas qu'elle est beaucoup plus petite, mais c'est dans le sens où...
C'est pas elle, la sœur.
Pour l'instant, on a... Enfin, elle est beaucoup plus petite, mais
C'est pas Vénus.
Mettez-vous d'accord, les scientifiques.
Enfin, c'est que dans le sens où, là, si on y va, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de pelouse par Terre. Et ça, on le sait. Et ce que je veux dire, c'est que la première chose entre guillemets qu'on a détruite sur la Terre, c'est les forêts. Alors que nous, là, sur Mars, on n'aurait pas les forêts à détruire.
Ça va aller vite.
Ouais, c'est ça. Ça va aller.
Ça nous enlève un peu de boulot.
C'est ça. Ça risque d'aller très vite. Et j'ai peur que cette conquête spatiale, ce soit aussi une, entre parenthèses, une destruction plus.
Donc, ça ne fait pas rêver, toi. Tu vois ça plutôt comme.
Il n'y a pas grand-chose à détruire sur Mars, après tout. Ouais.
Après, c'est ça. Il y a pas de choses à détruire. Des
cailloux.
Ah ouais, c'est ça. À moins qu'on découvre quelque chose à détruire. Mais
dans tout cas, quelque chose ou quelqu'un, c'est ça le fantasme. Est-ce qu'il y a seuls les humains?
Si on découvre quelque chose sur Mars, dans tous les cas.
Mais après, moi,
je pense qu'il n'y aura aucune possibilité, du moins, aucune logique de le détruire vu que ça sera un truc nouveau et on voudra absolument savoir ce que c'est. Et on fera plutôt des recherches pour ça.
Moi, les voyages sur Mars, c'est quelque chose qui me fait totalement rêver. Mais je sais pas, en même
temps. Ah, quand même, vu tout ce que tu as dit avant,
non,
on n'aurait pas dit.
Moi, non,
ça me fait des dérives.
Non, ça me fait rêver, mais c'est la dérive qui peut être un aboutissant de cette recherche spatiale qui me fait plus peur, en fait.
Allez, on va laisser le mot de la fin à
tous les
cas.
Oui, moi aussi, je voulais juste dire que ça me faisait rêver, à mon avis, comme tout le monde, de voyager sur Mars.
Ouais,
carrément. Et qui me fait d'ailleurs penser au papillon des étoiles de Bernard Werber. Mais voilà, si c'est pour faire exactement la même chose que sur Terre, c'est un peu une fuite plutôt qu'à affronter les problèmes qu'on a maintenant d'ailleurs.
Oui,
sur la COP21, voilà. Penser à plutôt fuir et à laisser en dégradation constante la planète sur laquelle on a toujours vécu, c'est un peu triste.
Si pour après, elle n'est pas en dégradation constante. Elle va se relever, exactement. Je pense.
On n'est pas encore tous sur Mars. Hein.
Non, je pense.
Non, on en est loin. Pour l'instant, on reste sur Terre. Et c'est bien sur Terre. Et c'est bien dans les studios de Radio Diwa qu'on se retrouve le 6 janvier, 12h10, pour le prochain CCC.
2016.
On devrait être un peu plus nombreux. Nous serons en 2016. On souhaitera une bonne année.
Premier CCC
en espérant
2016.
Très, 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 très fortement que l'année se commencera mieux qu'elle n'a commencé. Elle n'avait commencé en 2015 avec Charlie.
On est d'accord.
Donc, espoir. Merci d'être. Fidèle,
merci
beaucoup
à ceux qui ont
deux auditeurs.
Merci
d'être
avec
plaisir.
Nous. Ouais. Ça fait
et ça nous donne envie de continuer. Donc rendez-vous le 6.
Merci à
Yannick. Lou, un dernier mot.
Une dernière chose, ça m'a fait penser là quand on a commencé à aborder le sujet sur Mars. C'est un livre que je suis en train de lire en ce moment qui, moi aussi, ça me ferait plus rêver dans ce contexte-là. Ça, c'est beaucoup et la conquête terrestre, humaine, et c'est très étendu dans le système solaire. Ce livre s'appelle Rendez-vous avec Rama. Et dans ce livre-là, il y a, je sais plus, je crois qu'ils ont réussi à, entre parenthèses, équilibrer les populations sur toutes les planètes du système solaire, donc il y en a jusqu'à Vénus. Et je crois que sur Terre, ils sont plus que 1 milliard, donc qui va réduire totalement l'impact de la population sur la Terre. Et aussi, quelque chose qui est assez drôle, dans le pass, juste avant, que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, quelqu'un qui a même peur du voyage de 45 minutes qui l'amènerait jusqu'à Mars. Voilà, donc c'est un voyage de 45 minutes dans ce monde, c'est 2170, je crois, et qui est vraiment très intéressant comme livre, je vous le conseille. C'est un vieux livre, il a bientôt 40 ou 50 ans, je crois.
Non, c'est pas vieux, le
roman de science-fiction d'Arthur.
Pour toi, c'est Clark. Arthur, c'est Clark. Et franchement, d'accord, moi, ça m'a fait bien rire parce Ah, je conseille parce qu'il est,
1975,
il est assez drôle et on s'attend vraiment pas à ce qui se passe parce que c'est dans un monde qui a quand même été vachement idéalisé et qui est très intéressant à lire, je pense.
Extrêmement idéalisé, faut arrêter avec les vaches. Hein. 2000, d'ailleurs, l'épée des vaches, l'atmosphère, enfin, on revient à la COP21, je crois que ça fait toujours rire, mais ça crée des soucis. 2171
2170.
Eh bien, rendez-vous pour CCC en 2171. Ça existera encore, nos successeurs qui respireront, qui n'auront plus d'âge. Dans un monde parfait, peut-être depuis Mars, CCC depuis Mars. Avec Lucien, toujours aux manettes, ou l'arrière-arrière-petit-fils de Lucien.
À fond.
À fond. Oh, dis donc, ta vie privée ne nous regarde
pas. Spornat.
Allez, trêve de plaisanterie. Qu'est-ce que les spornats viennent faire dans cette galère?
Ça sera un spornat.
Tu en es un? Ah, bah oui, bien sûr, c'est génétique quasiment, c'est de père en fils.
Évidemment.
Allez, on termine sur les spornats, on termine sur CCC prochain, donc le 6 janvier. Passez autant que faire se peut, vu ce qui se passe en ce moment dans le monde, les meilleures fêtes possibles, les moins mauvaises fêtes possibles de fin d'année.
Les
et rendez-vous donc
possible, c'est pas très
le 6.
Les meilleures fêtes possibles.
Allez, les meilleures fêtes, tu as raison, on va rester là.
Allez, bonne fête à tous.
Au revoir, à bientôt.
Merci, au revoir.
Et ciao.
Ciao.